petite conclusion rapide ou pas? J'ai le générique à lancer.
Oui.
Mais
allez.
Vous êtes deux optimistes?
Bien sûr. Pascal, tous les voyants de l'optimisme sont là. Je vois pas comment on pourrait.
Rien ajouter, mais je vois leur tête. Hein.
Non, pour le lab, c'est foutu. Pour la société, c'est foutu. Donc, allons-y, on va se battre. Non, c'est bien sûr que c'est jamais foutu. C'est pas parce que tout était effectivement très, très sombre, mais ça ne doit pas nous empêcher d'avoir de l'optimisme et de tout ce qui a été possible par le collectif reste possible par le collectif et l'émancipation reste l'avenir du monde.
Je peux pas dire mieux.
C'est parfait. Quand même. Bon, je vous remercie, Déborah, Pascal, d'être passé pour nous parler du LAP et puis
d'actualité.
D'actualité brûlante. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour une émission plus culturelle.
Peut-être.
Littéraire.
Radio Libertaire n'est pas interdit d'ici là.
Arrête, Pascal.
Et puis, on va vous laisser avec les Mus Samus. Donc, dans 15 jours.
Merci.
Si, j'y crois. Moi.
Ils font plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux...
C'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Ce soir, nous allons parler de l'excellent livre de Jean Guéhenno, « Changer la vie, mon enfance et ma jeunesse ». C'est un livre dont j'ignorais jusqu'à l'existence, et je dois confesser que je n'avais même jamais rien lu de Jean Guéhenno. Et puis, il y a quelques jours, en me promenant sur les quais de la Seine et en farfouillant dans les boîtes des bouquinistes, je tombe sur ce livre dans la collection Les Cahiers Rouges de Grasset, Et ce titre, Changer la vie, m'a évidemment surpris. Parce que pour moi, les mots changer la vie, c'est d'abord, vu ma génération, quelque chose que le Parti Socialiste disait beaucoup. Je feuillette le livre, je m'aperçois que c'est probablement très intéressant et très bien écrit, je l'achète, je le lis, et très rapidement, je m'aperçois qu'il s'agit d'un livre absolument magnifique. Ce livre raconte donc l'enfance et la jeunesse de Jean Guéhenno, quelqu'un qui est né fils d'ouvrier à Fougères, ville bretonne, qui devient par la suite prof en cagne. Les cagnes, comme vous le savez, ce sont les classes préparatoires à Normale Sup, qui va surtout devenir un grand écrivain, qui sera même membre de l'Académie française, mais surtout pour nous ce soir, auteur de ce livre. Ce livre est préfacé avec une préface sans signature, mais tout à fait informative, et c'est la raison pour laquelle je vais vous la lire quasiment verbatim. Je change quelques petites choses pour la rendre plus compréhensible quand on l'écoute. Jean Guéhenno est né en 1890 à Fougères, pays de sa mère. Son père était du Morbihan, un village y porte le nom de Guéhenno. Ses parents étaient tous deux ouvriers dans la chaussure, principale activité de la petite ville bretonne. Son père fut le premier ouvrier à y être conseiller municipal. Plein de respect pour le savoir, le père mit le fils au collège où le fils prit, par les livres, le goût des idées et de la beauté. Mais Jean Guéhenno dut quitter le collège à 14 ans pour entrer comme employé à l'usine de chaussures. Malheureux, il décide de préparer, seul, le bachot. Les loisirs que lui donne la longue et dure grève de 1906 l'y aident. Elle contraint pour lui à d'autres titres, car Jean Jaurès vient à Fougères. Il relance le courage des grévistes, leur parle de leur dignité, magnifiquement. Le jeune Jean Guéhenno n'oubliera jamais. Bachelier en 1907, il obtient une bourse pour la cagne de Rennes, qu'il quitte en 1910, licencié de philosophie, pour le lycée Louis-le-Grand de Paris. En 1911, il est reçu à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il y apprend le grec, lit intensément, se fait des amis. 1914, la guerre. Il l'a fait dans l'infanterie. Gravement blessé lui-même en 1915, il sert à l'arrière jusqu'en août 1919. Commence alors, d'abord dans le Nord, ensuite à Paris, une vie de professeur qu'il fera presque tout entière en cagne, formant des générations de normaliens. Là, je saute une partie de la préface. 1939, Seconde Guerre mondiale. Guéhenno reste silencieux tout le temps de l'occupation. Il entre dans la résistance, fonde avec Jean Blanza, Jacques Decour, Jean Pollan, Édith Thomas, le journal clandestin Les Lettres françaises. Il publie aux éditions de Minuit dans la prison sous le pseudonyme de Cévennes. En 1943, il est rétrogradé par Vichy. Et là, j'ajoute, rétrogradé, ça veut dire qu'il est devenu professeur au lycée Buffon en quatrième. À la Libération, nommé inspecteur général de l'éducation nationale, il crée une direction des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, tentant de réaliser l'espérance de sa vie, ouvrir à tous l'accès à la culture. Fin de citation. Et là, je dois signaler que cette action, cette direction des mouvements de la jeunesse et d'éducation populaire, ça sera l'origine un peu lointaine, mais certaine, des maisons de la jeunesse et de la culture. Je reprends le dernier paragraphe de la préface. Changer la vie, parut en 1961. Ces mots, Jean Guéhenno les fit suivre en épigraphe de Karl Marx, Arthur Rimbaud, tant d'autres. La réunion, insolite, de ces noms est pleine de sens. Ces trois mots l'ont hanté toute sa vie. On les trouve très tôt, jetés sur des feuilles volantes, dans son journal, dans ses livres. Ils représentent sa foi et son rêve. Changer la vie des hommes, c'est les arracher à la misère et, par la culture, qui ne doit être refusée à personne, les amener à la conscience. Il est toute sa vie resté fidèle à la belle devise de Michelet qu'il avait faite sienne, être soi de plus en plus pour être frère de plus en plus. J'ignorais également que Michelet avait écrit cette phrase absolument magnifique, et je pense que je vais la conserver longtemps et essayer de m'en servir de plus en plus, parce que vraiment, c'est synthétiser de manière extrêmement frappante et extrêmement riche ce que, ma foi, les anarchistes désirent. À ceci près, bien entendu, que comme d'habitude, le mot « frère » n'inclut pas les femmes, et qu'il faudrait donc un mot qui nous permette de ne plus parler de ce genre de division. Vous savez que maintenant, par exemple, on se salue éventuellement par les mots non plus fraternellement, mais adelphiquement, pour ne plus aller dans les problèmes de genre. En tout cas, je vais commencer la lecture de ce livre, non pas par le premier chapitre, mais par le second, qui s'appelle « Peiné ou le paradis perdu ». Peiné, ça s'écrit P-E-I-N-E, accent aigu, et c'est à la page 25. Donc, je commence la lecture du texte. Cela s'appelait d'un nom étrange, Peiné. C'était une vieille chaumière isolée, à moins de 2 lieues de la ville, mais, me semble-t-il aujourd'hui encore, aussi loin que les Indes ou la Chine. Ma mère m'avait mis là, en nourrice, chez une grand-tante qui, après ses propres enfants, fit pousser ceux des autres, au moins une 20aine de petits hommes dont elle lava les langes et prépara les biberons pour que la terre ne manquât pas de bons ouvriers. Les femmes de la ville ne pouvaient pas élever elles-mêmes leurs enfants. À leur machine qu'elles ne quittaient guère, même pour manger, elles piquaient des chaussures tout le jour, 10 à 15 heures, assemblaient les claques et les quartiers. Elles pédalaient et roux, et la machine tournait, et le pain se gagnait. Ma mère, tant qu'elle le put, m'éloigna de ces misères, et jusque vers ma 12e année, je revins toujours à Peiné, aux vacances. C'était au bout du monde, au fond du temps, le paradis. Sur le versant d'une lande boisée qu'elle regardait à la limite des prairies qui s'étendaient au-dessous d'elle, une vieille masure, avec un toit montant de chaume, sur lequel poussait l'herbe. Les hivers et les étés, les pluies et les soleils avaient pourri et noirci le chaume. Elle était là depuis des siècles, un vieux refuge pour une vieille femme usée et le dernier avant l'éternité. Point de terre attenante, rien qu'un petit verger derrière la maison, quelques pommiers, et devant une cour où grattaient les poules. Des deux côtés de la haute porte, dont le battant supérieur restait toujours ouvert, et sous l'unique fenêtre à petits carreaux, les tournesols, l'été, ouvraient leur cœur jaune et noir aux abeilles et au soleil. Quelle paix! Et je me souviens, il y avait encore un grand noyer qui avait poussé dans la haie et qui versait son ombre sur la cour, et encore, au bas du verger, sous une couronne de saules, une fontaine, le premier et le plus beau miroir où je me sois miré. Je ne tarirai pas sur ma fontaine. Ma nourrice m'avait bien recommandé de n'en jamais troubler l'eau. Si je voulais barboter, je n'avais qu'à aller un peu plus bas, dans la prairie où couraient des ruisseaux. Mais la fontaine était sacrée. Elle met encore l'image des choses dont on ne peut épuiser la beauté. Souvent, il m'est arrivé de penser à elle, en lisant des vers de Racine, quand, par-delà les mots et leur sens immédiat, on entrevoit, comme à diverses profondeurs, d'autres beautés et comme d'autres paysages. Telles paroles reprises de Virgile ou d'Homère, les remparts d'Argos ou de Troie, et tout au fond, le monde des moires et des furies. Que d'heures j'ai passées, penchées sur ma fontaine. Je m'amusais du jeu des libellules, des glissades de ces insectes qu'on appelait des moulins à vent, sur l'eau lisse et brillante. Dans un cadre de cresson, dans les reflets des feuilles, des nuages et du ciel, grimaçait mon visage. Par-delà, à divers étages, ondulaient des herbes et des mousses. Par-delà encore, sur le fond de sable, gisaient des brindilles et des feuilles mortes. Parfois, des têtards traversaient, comme des vibrions, ces espaces tranquilles. Je les suivais dans leur voyage et, du bout d'une baguette d'osier, les obligeais à repartir toujours, comme j'ai appris depuis que faisait Poséidon au malheureux Ulysse. J'étais véritablement le dieu de ces têtards. Je regardais dans l'eau profonde et noire, comme dans ma création. Toujours Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Ce sont toujours Les Muses s'amusent et nous continuons la lecture du livre Changer la vie de Jean Guéhenno, paru dans les Cahiers Rouges chez Grasset. C'est la page 27, c'est le chapitre qui parle de la toute petite enfance de Jean Guéhenno et dans la maison principalement de sa nourrice à Peynay. Selon mes souvenirs, il fait toujours soleil dans ce canton de l'univers où j'ai grandi. Le temps n'y passe pas, et la vie y est sans problème. C'est comme un juillet éternel. Je suis libre. Je ne distingue pas entre les choses et les êtres. Tout m'obéit. C'est aussi bien que je ne demandais rien au monde pour la simple raison qu'il me donnait de lui-même plus que je ne pouvais recueillir. La découverte ne me laissait pas le temps du désir. Ma grand-tante vivait avec le dernier de ses fils, tailleur de pierre de son métier, le Julien. Tous deux avaient pour moi la même indulgence, et je jouissais auprès d'eux d'un extraordinaire prestige, mais à l'ordinaire, je n'en abusais pas. On me laissait aller comme un jeune chien qui fait ses dents. Je ne commettais pas grand dommage. J'appartenais aux choses autant que les choses m'appartenaient, et je n'avais pas encore l'idée de les changer. Le tentateur n'était pas encore entré dans le jardin. J'étais les choses, et les choses étaient moi. J'étais heureux. Il fait chaud. D'instinct, je cherche le frais, et je saute par-dessus la porte basse. Je sens encore à mon visage et sur mes mains la fraîcheur, quand je retombais ainsi de la cour pleine de soleil, sur la terre battue de la longue salle sombre, à la fois chambre, cuisine et cellier. Sur la droite, devant la porte, il y a une énorme tonne de cidre, avec un petit bol bleu à terre sous le robinet. Je tourne la clé, le cidre coule, je bois. « Ne bois pas comme ça, ça te fera mal !» Mais je bois, le roi boit. Au milieu de la salle, au bout de la longue table, sur la tirette qui la prolonge encore, sous une belle toile blanche, il y a un énorme pain, à la mesure du tonneau de cidre, un pain pour des géants, rond comme une roue de charrue, gris et noir. Il faut que ma nourrice m'y taille une beurrée. Je mange, le roi mange. Alors je suis une bête, une jeune bête contente et solide. Que faire? Je quitte mes sabots et je monte sur la longue huche, dont le couvercle luisant et ciré forme une admirable glissoire. « Maudit !» me crie ma nourrice. « Vas-tu bien t'arrêter? Tu vas user tes bas !» Je m'arrête un moment. Mais il y a trois grands lits le long des murs. Le mien est au bout de la huche. J'enjambe le montant et me voilà fourrageant dans ma paillasse. La paille s'enfonce sous mes pieds, se creuse comme des vagues. Je suis sur la mer. Il faudra redresser le lit. « Maudit ! Maudit !» me crie ma grand-tante qui brandit sa quenouille au milieu de la salle. « Quelle peine tu me donnes ! Tu me feras mourir ! Apprends ton catéchisme !» Cela finissait toujours de la même manière. Ma grand-tante et moi, nous passions un traité. J'apprendrai mon catéchisme, mais après, j'aurai le droit de faire le tour des images. Tout autour de la salle, au-dessus des lits, de la huche, de la tonne de cidre, et même sur les corniches du buffet et de l'armoire, il y avait des images et des portraits. J'aurai le droit d'aller au plus inaccessible, de lit en lit, en marchant doucement pour ne pas trop écraser la paille. J'apprenais donc mon catéchisme. Je me couchais à plat ventre sur la huche, appuyé sur les coudes, la tête dans mes mains, devant mon livre. Il régnait une paix fraîche et douce. Le rouet menait son bruit monotone. Les secondes se décrochaient l'une après l'autre dans la boîte de la grande horloge, son balancier de cuivre passant et repassant derrière la petite lucarne de verre. Le temps qu'elle mesurait ne pressait personne. La lumière rasante de l'unique fenêtre, frappant les panneaux des meubles de cerisier, les transformait en de grands miroirs rouges. Quel merveilleux silence! Dieu pouvait venir! Parfois seulement une poule trop familière, et qui espérait picorer autour de la table les miettes du dernier repas, volait de la cour, se perchait sur la porte basse. Ma grand-tante faisait « Chut !» et la poule retournait au champ. Alors, ma nourrice à son rouet et moi sur ma huche, nous étions dans l'éternité. C'était donc le second chapitre du livre « Changer la vie » de Jean Guéhenno, petite merveille, ce chapitre sur sa toute petite enfance. Et puis, son père et sa mère sont donc ouvriers dans les usines de souliers. C'est la raison pour laquelle je vais vous lire un autre chapitre qui est page 47 et qui s'appelle « Histoire de souliers ». Angélique, bon Dieu ! Trois petits poulets, nom de Dieu ! C'était mon père qui, dans le jardin, nous criait sa joie. Il jurait par habitude. Ces jurons n'étaient pas du tout une offense au Seigneur. Ils lui servaient à mettre le mouvement et les pauses dans sa parole. C'en étaient les signes de ponctuation. Mais il avait mille façons de jurer. Et son ton nous renseignait, ma mère et moi, avec exactitude, sur son humeur et ses sentiments. Ses appels au Créateur étaient cette fois purement exclamatifs et la plus vive action de grâce. Je descendis l'escalier 4 à 4 et courus au jardin. Mon père s'était enfermé dans le poulailler. Je le voyais à travers le grillage. Debout, dans son long tablier bleu de cordonnier, les bras ballants, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, la tête un peu penchée, immobile et muet, le premier moment de la surprise passé, il semblait plongé dans la plus profonde méditation. Il ne finissait pas de rouler entre ses doigts une cigarette. Adam, échappé de la main de Dieu, ne fut pas plus étonné quand il vit s'étendre à ses pieds les merveilles du paradis. Mon père, enfin, leva la tête. « Regarde, petit !» me dit-il. « Regarde !» Ses yeux flamboyaient. Dans la courette, une poule, notre poule, sortie en effet du nid où elle était restée accroupie depuis des jours, le jabot gonflé promenait 3 poussins en levant haut les pattes. Je comprends à présent quel événement c'était là. Pour moi qui arrivais de la campagne et avais poussé dans une cour de ferme, il n'y avait pas de quoi beaucoup m'étonner. Mais mon père l'avait oublié, et il venait d'en avoir à nouveau la révélation. Il redécouvrait la générosité et la gratuité de la vie. Cette courette, où caquetaient une poule et 3 poussins, lui était l'image du monde avant que le travail fût devenu l'universelle pénitence. Construire ce poulailler avait été moins une peine qu'un plaisir. Et quelle démesure dans la récompense! 3 poussins! Quelle profusion! Mon père souriait, réconcilié avec la création. Ma mère fut moins satisfaite. 3 œufs éclos pour 12 œufs posés. L'affaire n'était pas brillante. Mais la joie de mon père l'emporta. Et ce jour-là, nous fûmes riches. Était-ce le pressentiment de si prodigieuses richesses qui nous avait amenés dans cette maison du Faubourg, à l'orée des champs? Les locataires y jouissaient d'un grand privilège. Chacun d'eux disposait derrière la maison de quelques mètres carrés de terrain. Mon père, qui ne maniait bien que les tranchées et le marteau de son métier, n'était pas du tout jardinier. Mais un de mes oncles était venu à son secours et avait planté de la ciboulette, des oignons, des choux, des salades. Mon père avait seulement tendu le cordeau et surveillé les alignements, et maintenant, les soirs d'été, il descendait au jardin et y achevait son souper en mangeant des petites cives sur son pain. Après quoi, il s'abandonnait aux délices de la contemplation. On avait aussi construit ce poulailler. L'oncle Francis avait encore eu tout le mérite du gros travail. Mon père n'était intervenu que pour le fignolage. Ce n'était pas un poulailler vulgaire, une simple cage à poules, mais une sorte de palais grillagé, avec un haut fronton, un encorbellement et des tours d'angle dans lesquels mon père comptait bien élever les chardonnerets. « Sacré père Jean, lui disait mon oncle, tu ne t'intéresses qu'à ce qui ne sert à rien. » Et il est vrai qu'il était ainsi fait. Quand le poulailler avait été construit, il y avait eu grand débat entre ma mère et lui sur les habitants qu'on y logerait. Ma mère rêvait, naturellement, de la poule aux œufs d'or et avait mis cette grosse poule paysanne et prolifique qui venait de nous couver 3 poussins. Mon père y apporta un soir un petit coq et 2 poulettes de Barbarie. « Un cadeau, nous dit-il. C'est un camarade qui me les a donnés, tu sais bien, Pierre Roulier. » « Vieux menteur, répondit ma mère. « T'inquiète pas, ajouta-t-il en manière de justification. Mes poulettes et mon coq, ensemble, ne mangeront pas plus que ta poule. » Il aimait d'instinct tout ce qui était rare et se méfiait du commun. Ses 2 poulettes étaient fines comme des perdrix. Son coq eut bientôt, parmi les locataires de la maison Bruant, une renommée de grande méchanceté. Il était coléreux, toujours prêt à se battre, et rendait la vie dure à cette grosse bourgeoise de poule qui avait un bon appétit et prétendait se réserver tout l'orge et tout le blé. Mais cette réputation de son coq ne déplaisait sûrement pas à mon père. Il n'eut pas su dire pourquoi, comme M. Renan, mais comme lui, il eût préféré, j'imagine, de beaux monstres à la platitude. Une telle préférence participait de sa philosophie générale. Chacun a la sienne, et il n'est pas sûr que les plus savantes et les mieux liées soient les plus belles. Elles mutilent la nature et la réduisent à rien sous prétexte de l'expliquer. Ce sont trop souvent fables que se racontent entre eux gens de loisirs à l'abri de la vie et peu préoccupés de la changer. Bavardage de vieux retraités assis en rang sur les bancs des jardins publics, le menton sur leur canne, après la vie, après l'épreuve, ils ne tiennent plus à savoir. Ils ne tiennent plus à rien. Les philosophies ne sont jamais plus belles que quand elles sont encore poésie, découverte et conquête du monde. Thank you. toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Ce sont toujours Les Muses s'amusent, et je suis en train de vous lire des extraits du fabuleux livre de Jean Guéhenno, Changer la vie, paru chez Grasset dans les Cahiers Rouges. Nous sommes toujours dans la petite enfance de Jean Guéhenno, et je vais vous lire, à partir de la page 98, son récit émerveillé de « Une belle journée de lumière, je découvris la mer. Je devais avoir dans les 9 ans, un dimanche d'août, il y eut un train de plaisir pour Saint-Malo, et ma mère avait décidé que nous en serions. La place coûtait 3 francs. Cela faisait 9 francs pour nous trois, sans compter la journée totalement perdue et les petits frais inévitables d'un voyage. On emporta, il est vrai, le dîner et tout ce qu'il fallait afin de ne pas aller au restaurant. Tout de même, c'était une vraie folie. Mais elle l'avait décidé. Et de grand matin, on descendit à la gare, du pas allègre de gens qui ont vaincu tous les fantômes et sont prêts à défier le destin. Mon père seul avait son pas ordinaire. Des événements de cette sorte ne le touchaient pas. Je passais presque toute la journée dans une sorte d'éblouissement. Il y avait 3 heures de voyage. Je ne quittais pas la portière. J'attendais. Je guettais la mer. Mais elle ne se montrait pas. Nous venions du fond de la terre. Le train ahannait dans un horizon fermé, à travers de petits champs que bordaient des haies de chênes et de châtaigniers. Mais cela se renouvelait toujours. Et je connus, comme la terre était grande, vers Pont-Orson, les haies disparurent et les arbres. L'horizon s'élargit. La mer était toujours invisible. Mais dans le wagon, tout le monde parlait d'elle. Une femme dit qu'elle sentait ses lèvres salées, et chacun se passa la langue sur les lèvres, avide de goûter l'inconnu. Je ne sentais rien, et j'étais désespéré. Quand on eut traversé Dole, quelqu'un cria qu'il l'avait vue. On discuta si c'était elle. Je ne la voyais pas. Mais le ciel était tout changé, plus vaste, plus mobile. Le vent, qui renversait mes mains tendues à la portière, roulait de blancs nuages éclatants. On arriva enfin. Et dès la cour poussiéreuse de la gare, entre les façades peintes des hôtels, j'aperçus la forêt des vergues, les mâtures des navires qui remplissaient les bassins du port. Elle était là, et j'étais sûr désormais qu'elle existait vraiment, au rebours de tant de merveilles dont on vous parle toujours et que vous ne rencontrez jamais. Nous longeâmes des quais, traversâmes des terrains vagues. L'air était pétillant et salé. Et tout d'un coup, au détour d'un haut mur de caserne, elle fut là, devant nous, l'image même d'une vie qui ne serait jamais vaincue. C'était vers les 8 heures du matin. Il semblait qu'elle dormît encore, rêveuse et solitaire, bleue, et un peu brumeuse. La marée était haute, et de petites vagues, sans violence, les unes après les autres, s'écroulaient sur l'immense plage de sable. « Écoute, écoute !» me dit ma mère. Et nous nous arrêtâmes. Ma mère souriait, comme réconciliée avec le monde. Cela faisait un long et doux bruit toujours recommencé, un souffle continu, invincible. Nous y suivîmes la longue digue qui va de Saint-Malo à Paramé. Un petit train survint qui longeait la chaussée. Il ne cessait de sonner une cloche pour faire ranger les passants. Mais il n'y avait personne que nous sur le chemin. Et mon père se moqua de tant d'honneur qu'on nous faisait. Personne que nous et la mer. Derrière les haies de camélia ou de tamari, les villas s'éveillaient seulement et l'on entendait des cris d'enfants heureux. Parfois un garçon boulanger, une servante en tablier blanc, nous frôlait en courant, laissant derrière eux un parfum de croissant chaud. J'imagine très bien quelle allure nous avions, de si bon matin devant la mer infinie. Il me reste, dans un album de peluche rouge, une photographie de ce temps-là qui dut être, somme toute, un temps heureux, en dépit de tout, puisqu'on put faire les frais de cette image. Ma mère et mon père se donnent le bras, et je tiens la main de mon père. Nous sommes tous trois dans nos habits du dimanche. Ma mère porte son chapeau à aigrette. J'ai mes culottes longues et un petit canotier. Nous avons l'air riche. Nous marchons vers l'objectif du photographe avec componction et dignité. Ainsi avancions-nous sur la digue, à petits pas, au pas de promenade, émus par l'étendue et le silence et l'air d'un monde où tout semblait destiné au plaisir. Les grands hôtels étincelaient de toute leur glace. Le casino de Paramé était un vrai palais. Dans les jardins brillants de sauge et de géranium, les allées fraîchement ratissées étaient si nettes et si propres qu'on aurait osé y poser le pied. Elles n'étaient pas faites pour des pas d'homme. Ma mère fut soudain reprise de tous ses rêves, risquée sans sous aux petits chevaux, et gagnée par un premier miracle, employée une partie du profit à aller à Lourdes, où les miracles, encore, comme on sait, sont habituels. Y voir la maladie devenir santé, les paralytiques lâcher subitement leurs péquilles, toute la misère du monde s'abolir, enfin, s'il restait quelque argent, aller au paradis sur terre, à Nice, et connaître le printemps éternel. Nous nous assîmes dans le sable, au pied de la digue. La mer, indifférente, menait son train. Elle en était à descendre. D'abord, je n'osais guère jouer avec elle. Vers les 11 heures, après la messe, la plage s'emplit d'enfants. En ce temps, l'humanité bourgeoise de l'Europe occidentale n'avait pas encore fait dans le déshabillage et vers le nu tous les progrès qu'elle a fait depuis. Elle était encore pleine de pudeur. Il y avait encore, les femmes surtout, pour se dévoiler, tout un art de se voiler. Les jeunes garçons portaient de longs maillots collants, les filles de singulières robes spéciales pour le bain. Une sorte de honte, sans doute, chassa les 3 endimanchés que nous étions. Nous allâmes de l'autre côté de ce long rocher qui limite à l'est la plage de Paramé. Sans le vouloir, et comme d'instinct, nous avions découvert sur cette plage de luxe le coin des pauvres. Quelques-uns de nos compagnons du train de plaisir, après les mêmes vaines tentatives de se mêler à la fortune, rejetés par elle comme des corps étrangers, avaient eux aussi échoué là. On y passa tout le jour. Chacun à l'aise, déballa son dîner et fit la fête. Ma mère était toute à ses songes. Mon père, qui n'avait personne à qui parler, s'ennuyait devant la mer taciturne. J'ai parlé de mon éblouissement, ces absences, possessions que j'aurais dû dire. Je m'étais enhardi, déchaussé, j'avais quitté mon canotier, relevé jusqu'aux cuisses mon pantalon. J'errais autour des flaques qu'elle laisse dans les rochers, émerveillé par l'inconnu qui m'était soudain révélé, par les algues, les méduses, les étoiles de mer, les coquillages. Tout était neuf et tout m'était donné. Je me trouvais pour la première fois dans cette marge de la terre où les terriens, car les gens de mer qui y livrent leur combat en ont sûrement une autre impression, peuvent commencer de se sentir d'accord avec la création, parce que là semble commencer la liberté. Rien n'y appartient à personne. Vous-même n'êtes plus à vous-même et cependant, vous vivez de toutes vos forces. Est-ce la liberté? Tout est à vous, jusqu'au fond du ciel et rien ne vous refuse. L'air marin vous énerve et vous délivre avant qu'il vous assomme et vous remplisse de sommeil. Nous revînmes dans la nuit. Je ne me souviens pas du retour.
Mmh.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, ni publicité. Ce sont toujours Les Muses s'amusent et nous continuons la lecture du très charmant livre de Jean Guéhenno, Changer la vie, mon enfance et ma jeunesse, paru dans les cahiers, enfin, édité maintenant dans les cahiers rouges de chez Grasset. Le chapitre que nous allons lire maintenant, qui démarre à la page 155 et s'intitule « Une grève en 1906 », c'est l'histoire de cette très longue et très dure grève qui a eu lieu effectivement à Fougères, c'est-à-dire à la ville où vivait la famille de Jean Guéhenno, qui a été réprimée par le prétendu socialiste Clémenceau. On sait ce que l'on doit, hélas, à M. Clémenceau. Dans la vie de Jean Guéhenno, ce chapitre se place au moment où il est devenu bachelier. Donc, très clairement, pour tout le monde, ça y est, il sort de la condition ouvrière, ce qui est à la fois pour lui une libération, mais qui en même temps, visiblement, va lui coûter la sympathie, la chaleur, on va dire, des gens de sa classe précédente, c'est-à-dire les ouvriers, ce monde auquel il appartenait. Et il y avait deux phases au baccalauréat, et c'est la raison pour laquelle la première phrase de ce chapitre, qui commence donc à la page 155, est la suivante. Le second bachot m'avait donné beaucoup moins de peine que le premier. Le professeur de philosophie du collège me prêta des livres et me donna des conseils, et je dus à un malheur public de pouvoir travailler à mon aise. Une grève éclata, et les usines furent fermées pendant 3 mois. Je n'étais pas gréviste à proprement parler, puisque les employés dont j'étais devaient assurer, selon un accord entre les syndicats, une sorte de permanence dans les bureaux des usines, mais nous n'avions presque rien à faire, et je pus lire à mon plaisir. J'ai souvent pensé que la plus grande et la plus émouvante histoire serait l'histoire des hommes sans histoire, des hommes sans papier, mais elle est impossible à écrire. Ils sont passés comme des troupeaux d'ombre sur les chemins de la terre, et l'on y chercherait en vain la trace de leurs pas. Ce qu'ils ont laissé tous ensemble, les monuments, quelques menhirs, quelques temples, quelques pyramides, autorisent seulement le rêve. Les pierres nous aident à dater les siècles, mais les maçons qui les manières n'ont pas d'âge, pas plus que les vastes terres défrichées, cultivées, la campagne humaine. Cette grève de 1906 reste en moi comme la plus grande épreuve humaine à laquelle j'ai assisté. Je me suis souvent proposé d'en écrire l'histoire précise, détaillée, objective, rigoureuse. J'aurais aimé en faire un court récit, sec et décisif. Je ne suis même pas parvenu à en rassembler les moyens. Ce n'est pas seulement que les bombardements ont détruit les archives de la ville, et comme m'écrit le secrétaire du syndicat, le dossier complet relatant tous les événements de cette époque héroïque et courageuse. C'est que tout se perd de tels drames. Je ne me souviens que de fantômes dans la grisaille de l'hiver et de la pluie. Pourtant, je l'affirme, c'était quelque chose de grand qu'une grève ouvrière en 1906. On n'en a guère l'idée aujourd'hui que la guerre entre les classes est en quelque sorte normalisée, réglementée. C'était une affaire de pain, bien sûr, mais autant une affaire d'honneur, un dur combat. On savait qu'on aurait faim. On prenait un effroyable risque. Fût-on vainqueur, quelque chose serait perdu, des journées de travail et de paix qu'il ne serait pas question de retrouver. Personne n'y eût même pensé, car cette perte et la souffrance qui en résulterait devaient être le prix même de la victoire. Cette fois, ce ne fut pas une grève à proprement parler, mais ce qui, pour la conscience ouvrière, était pire. Un lock-out décidé par les patrons. On commençait par la défaite et par la honte. On n'allait pas de soi-même à la bataille. On y était contraint, on était mis dehors. On s'entendait signifier qu'on était inutile et qu'on pouvait rester dehors, et cela jusqu'à ce qu'on eût assez faim et qu'on fût assez obéissant et sage. L'industrie de la chaussure prenait de plus en plus d'importance. La place, comme disaient les patrons, se développait. Mais les progrès des syndicats ouvriers les inquiétaient. Ils avaient, pour combattre leur influence, rassemblé avec l'aide des prêtres et des patronages les ouvriers timides, récemment venus des campagnes, et créé un syndicat jaune qu'ils manœuvraient. Ils choisirent bien leur temps. La chaussure est une industrie saisonnière. Les mois d'hiver sont les mois de plein emploi, et par suite, pour les ouvriers, novembre, le mois de la plus grande espérance. Ce fut le moment où ils furent mis dehors. Un petit litige s'éleva au service de montage de la maison B. Il s'agissait de quelques centimes par paire. Le patron prétendait imposer des tarifs discutés et acceptés par le syndicat jaune. La majorité des ouvriers de l'usine s'y opposa. Les patrons, très unis, firent savoir qu'ils voulaient être fixés définitivement dès le lendemain à 10 heures, et que si les ouvriers de l'usine B maintenaient leur opposition, toutes les usines seraient fermées. Les ouvriers de chez B se réunirent, ainsi que le conseil syndical, et il fut décidé qu'on n'accepterait pas les conditions des jaunes. On en avisa le président du syndicat patronal, M. D. Le lendemain matin, à 7 heures, dans le jour embrumé de novembre, les ouvriers purent lire sur toutes les portes des usines la même petite affiche: un avis de fermeture dans un délai de 8 jours, s'il ne venait pas à récipiscence. Alors, l'honneur parla à tous de la même manière. On ne pensa plus au pain, au froid, à l'hiver, aux enfants, et de tous les quartiers de la ville. Les ouvriers montèrent à la Bourse du Travail, où, dans un grand meeting, on décida l'arrêt immédiat du travail pour protester contre le lock-out généralisé, le chantage et la provocation. J'ai sous les yeux quelques documents. Voici la dernière lettre adressée par le syndicat ouvrier au patron de l'usine où le litige avait éclaté et après laquelle le syndicat patronal décida le lock-out. Monsieur B, fabricant de chaussures, les opérateurs de votre maison, réunis ce matin, me prient de vous faire savoir qu'ils abandonnent le centime demandé pour les grandes claques, en homme ou en femme. À part cette modification, ils maintiennent le tarif qu'ils vous ont présenté. Agréez, monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments. Pour la Chambre syndicale des cordonniers, le secrétaire adjoint, Jousse. De tels documents, à cause même de la technicité du langage, ne parle à personne. Comment y reconnaître la peine des hommes? Comment apprécier cet abandon d'un centime? Si l'on ne sait pas que l'opération de montage était d'autant plus délicate que la claque, l'empeigne, était plus grande, qu'il s'agit de souliers d'hommes ou de femmes, il faudrait expliquer tous les mots. Qu'on sache donc que ce qu'on appelait opérateur en ce temps-là était un ouvrier monteur qui, avec quelques aides qu'il avait autour de lui, montait vraiment à une machine Boston. Ces premières machines américaines étaient célèbres et leurs opérateurs leur devaient une sorte de prestige. Les chaussures, les unes après les autres, et en assemblant d'un coup toutes les pièces. Il tenait entre ses deux mains, contre sa poitrine, la chaussure sur une forme de bois et de fer, et la machine, comme un lourd marteau, à un rythme régulier, tombant sur ses poignets, plantait d'un coup les semences ou les pointes et affichait et fixait la semelle. C'était le travail le plus pénible de toute l'usine. La poitrine des hommes ne résistait pas longtemps à ces secousses continues. On disait que les opérateurs mouraient de la poitrine. Mais chacun, pourtant, avait l'ambition de le devenir. Ils avaient la meilleure paix et ils étaient environnés d'une sorte de gloire. Il était juste qu'ils fussent cette fois comme les protagonistes du drame. La vraie question était, pour le syndicat patronal, de briser cette force ouvrière qui commençait de monter et de trouver sa conscience et son unité. La grande masse des familles, après quelques semaines, fut absolument sans moyen de vie. Et ce fut une cruelle guerre civile. Les chefs d'aucun des deux partis n'étaient des hommes mauvais, mais tous les opposaient. Ils ne pouvaient se comprendre. Le président du syndicat patronal, M. D., était un ancien polytechnicien. C'était un homme savant et distingué. Il était incroyablement grand. On l'appelait le grand D, et sa taille, sa fortune, sa science, l'avaient établi dans une autre zone d'air que celle où nous respirions. Il représentait dans la ville la tradition de la puissance. Son père avait une légende. Il avait été ouvrier en Amérique, s'y était enrichi et avait créé à Fougères la première grande manufacture. C'était sur la plus vaste place, et face à la statue équestre du général de l'Empire qui témoignait qu'en tous les temps, les Fougerais n'avaient manqué ni de valeur ni de courage, une immense bâtisse de pierre blanche, de briques et de verre, à la mode de l'Amérique de l'époque, un vrai temple du progrès et de l'industrie. Monsieur D était inaccessible. Sa mère, la vieille Madame D, était, elle aussi, à peu près invisible. Elle habitait, au centre de la ville, un hôtel entouré d'un petit parc, tout enclos de murs eux-mêmes surmontés de tessons de bouteilles, qu'on devinait admirables. On s'arrêtait sous ces murs, au mois de mai, à en respirer les parfums. Le frère de M. D et son associé nous étaient mieux connus. C'était ce dompteur de chevaux et ce chasseur dont les voitures nous émerveillaient. Il devait, dans la famille, représenter la fantaisie. Autour de M. D siégeait une trentaine de patrons, quelques-uns très valables, le plus grand nombre bourgeois, calculateurs et économes, habitués dès longtemps au profit sur le travail des autres, bons chrétiens sans remords et, selon leur compte, sans péché, quelques parvenus récents aussi, qui avaient plus mauvaise conscience et se souvenaient encore assez bien de ce qu'était un centime, pour savoir que dans certains cas, leurs camarades de la veille seraient capables, pour lui, de se battre jusqu'à la mort, et qu'on leur faisait par suite un immense cadeau en le leur accordant. En face de cette trentaine d'hommes unis par les intérêts, également savants sur les prix de revient, sur ce qu'on devait donner ou refuser pour que le profit fût sauf, retranchés dans leur haute maison de la grande rue, sûrs, quoi qu'il advînt, d'avoir chaud et de manger, polis, corrects et bien disants, ils se plaignent amèrement dans les documents que leurs adversaires ne sachent même pas les formules de politesse et ne manquent jamais, quant à eux, d'assurer les autres au pire du combat de leurs sentiments distingués. Il y avait en face une foule ignorante et passionnée. Deux hommes l'amenaient et portaient toute la misère et tout l'espoir de 8000 ouvriers, hommes et femmes, qui leur avaient vraiment remis leur vie. Le secrétaire du syndicat des coupeurs, F, était un petit homme tout rond, vif et entêté. Il trottinait par la ville, toujours pressé, absorbé et impénétrable. C'était lui qui, en 10 ans, avait donné à ce syndicat des coupeurs, c'est la catégorie des chaussonniers qui coupent les dessus de la chaussure, tiges, quartiers et claques, et c'est une spécialisation difficile, constituée séparément sa cohésion et sa puissance. Il les avait rassemblés tous, presque sans exception, un à un, comme les fidèles d'une nouvelle église. Le syndicat des cordonniers était loin d'avoir la même solidité. Les paysans qui, à mesure que la place se développait, étaient venus de la campagne s'embaucher dans les usines, manquaient de qualifications. La plupart gardaient leurs habitudes campagnardes et se méfiaient de la vie de groupe, de la discipline syndicale. Par suite, le syndicat des cordonniers était pauvre et ses caisses de combat à peu près vides. Le secrétaire, M. G., avait eu beaucoup de peine à rassembler ses ouailles. C'était un homme grand, un peu voûté, au visage ouvert mais gris et triste, une tête d'intellectuel, un haut front, des cheveux un peu longs, de ces moustaches fines et tombantes que quelques années plus tard je devais retrouver à M. Henri de Régnier, une large lavalière noire volant au vent. Le petit F, secrétaire des coupeurs, eût fait plutôt penser à Sancho, Monsieur G, secrétaire des cordonniers, à Don Quichotte. Ces deux bons compagnons, s'aidant l'un l'autre, livrèrent la bataille. Donc les 8000 ouvriers se trouvèrent dehors et les bras ballants pour la journée entière. Dans ces mois-mêmes où d'ordinaire on travaillait plus que jamais jusqu'à des 11 heures par jour. Rien n'est pénible à qui habituellement travaille, comme de ne rien faire. Les fins de semaine revinrent sans qu'il y eût jamais de paix. Les femmes commencèrent d'accuser leurs hommes de paresse. Les secours dérisoires distribués par les syndicats se réduisirent bientôt à rien. La chance était de découvrir un boulanger qui accepta de vous vendre du pain à la coche à crédit. Mais les tailles, au bout d'un mois, furent si longues, de vrais bâtons, qu'on n'obtint plus de crédit. Les châtaignes, cet hiver-là, plus que jamais, furent une providentielle ressource. Tous les enfants coururent les vieux chemins et les firent sauter de leur bogue à grands coups de sabots. La ville devint triste. Son silence avait changé. C'était le silence de la peur. Il n'y eut d'abord aucun désordre. Les soldats restaient consignés dans leurs casernes, prêts à intervenir. Le syndicat ouvrier organisa des soupes syndicales dans la cour de la Bourse du Travail. On avait monté une longue tente foraine, installé des lessiveuses transformées en chaudières. On distribua 700 soupes les premiers jours et on en prévoyait 3000. Mais je n'ai rien retrouvé qui permît de voir ce que fut le développement de l'institution. J'imagine que bien des gens sentirent devant elle la même honte qu'ils sentaient devant l'hôpital, où l'on n'acceptait guère d'entrer que pour mourir. Résistèrent et préférèrent avoir faim aussi longtemps que cela leur fut possible. Ce n'est que moi, aujourd'hui, à ma table, devant de vieilles cartes postales qui représentent la préparation de la soupe à la Bourse du Travail ou l'arrivée des charrettes de bois pour la cuire, qui puis trouver à tout cela de la grandeur et une sorte de poésie. La préfecture avait accordé au comité de grève l'autorisation de couper du bois dans la forêt. Chaque matin, des hommes et des jeunes gens partaient à la corvée. Les retours, le soir, étaient magnifiques. Ils étaient une vingtaine qui tiraient avec des cordes la même charrette dans un grand élan joyeux, en dépit de tout. Cette vaste forêt qu'au temps du bonheur on allait revoir les dimanches du printemps, ce lieu de toutes les promenades et de tous les songes, cette grande chose vague et libre qui était là, toujours au nord de la ville, comme une ressource de force et de sérénité, voilà qu'elle était devenue le secours le plus utile dans cette vie primitive où la misère obligeait à revenir. Deux fois, à la fin de novembre, la chambre de commerce, puis la mairie, proposèrent leur arbitrage. Les ouvriers reprendraient le travail aux anciennes conditions, mais les deux parties discuteraient de nouveaux tarifs dans les 6 mois à venir. Un référendum fut organisé. Les ouvriers, à une grande majorité, refusèrent de rentrer. La famine s'installa dans la ville. La pluie, le brouillard de décembre en Bretagne. Un silence hargneux. Chaque usine était gardée à l'intérieur par les services de maîtrise et les employés des bureaux. À la porte, un piquet de grève surveillait. On s'empoignait quelquefois entre jaunes et rouges. Le 5 décembre, les patrons firent distribuer par la poste des offres de tarifs. Et cette manœuvre provoqua des remous, défilés dans la ville. Je vis pour la première fois des drapeaux rouges et des drapeaux noirs. Les enfants avaient faim. Diverses villes, Rennes, Paris, Laval, Saint-Nazaire, demandèrent à les recueillir. Le 9 décembre, le secrétaire des syndicats de Rennes vint présider au premier départ. Singulière fête. La ville se vida d'enfants. J'ai voulu savoir ce qui, d'une telle aventure, après 50 ans, aujourd'hui, restait dans l'esprit de ces enfants. À la maison, m'écrit l'un d'eux, nous avions peu de choses à manger. Un jour, sans rien dire à mes parents, j'étais allé à la bourse pour me faire inscrire pour le prochain départ, et j'avais pris, à la sortie de l'école, l'ancienne de mes sœurs, pour que nous puissions partir ensemble. Pendant quelques jours, nous fûmes muets, mais un samedi soir, deux hommes du comité de grève vinrent nous prévenir que nous partions le lendemain. Jamais je n'oublierai ce moment sublime où, contre la volonté de mes parents qui pleuraient, je partis. Nous allâmes à Saint-Nazaire. sur la place de la gare, des milliers d'ouvriers nous attendaient. J'avais l'habitude d'entendre chanter l'International, mais ce jour-là, avec mon petit paquet et ma piteuse mine, l'émotion était à son comble. C'est ainsi que l'histoire dans les mémoires devient légende et forge les âmes. Au bout de 2 mois, la misère avait trouvé son ordre, son train, ses distractions. Les bagarres entre jaunes et rouges devinrent un peu plus nombreuses, mais on aurait pu dire que l'ordre public était troublé. 2 ou 3 après-midi chaque semaine, des meetings avaient lieu sous les halles. Des députés socialistes, des militants syndicalistes, c'est ainsi que pour la première fois j'entendis Jean Jaurès, parlaient. Ils développaient les thèmes d'une nouvelle religion, d'une nouvelle espérance, annonçaient un nouveau monde. On écoutait comme à la messe ces grèves tragiques du commencement du siècle, dans l'ignorance où étaient les masses qui les faisaient, furent comme de solennels sacrifices à un dieu qui devait venir. La grève de Fougères se développait désormais sous les yeux de toute la France. Le mercredi 9 janvier 1907 fut la journée la plus horrible. Le syndicat patronal, imaginant que les révoltés avaient maintenant assez souffert et que l'heure de la soumission était peut-être venue, avait décidé de tenter ce jour-là une réouverture des usines. Le gouvernement s'en mêla. Le préfet envoya 400 gendarmes. Le maire en eût voulu 200 de plus. Les députés socialistes, qui étaient venus pour les grandes prières rituelles, télégraphièrent à Viviani et à Clémenceau pour protester contre ces mesures qui semblaient une provocation. De grands noms intervenaient dans l'histoire d'un obscur et anonyme malheur. Le mercredi matin à 9h, toute la ville fut dans les rues. Les grévistes, naturellement, qui avaient organisé les cortèges, mais aussi tous les autres, par curiosité. 753 ouvriers se présentèrent et entrèrent dans les usines sous la protection des gendarmes. J'étais de toute mon âme avec les grévistes, mais un de mes plus lourds souvenirs est ce que j'ai pu voir ce jour-là. Et aujourd'hui encore, je me sens plein de chagrin à la pensée de quelques-uns de ces jaunes dont on eût dit qu'ils s'étaient mis hors de l'humanité. Il leur avait fallu du courage pour entrer. Il leur en fallut plus encore quand ils durent sortir, à midi. À la porte même de l'usine, les gendarmes les protégèrent. Mais ils avaient à faire tout le chemin de l'usine à leur maison. J'en vois encore 2 ou 3, rasant les murs, courant la tête entre leurs mains, poursuivis ou coincés et arrêtés dans des embrasures de portes, et non pas battus, mais couverts de boue et de crachats. Le soir, il y eut un meeting sous les halles. Et puisqu'il n'y avait pas eu de sang versé, on se félicita de la victoire. Mais la ville était pleine de douleur et de honte, et chacun chez soi pleurait. Le lendemain, jeudi, il n'y eut plus que 300 rentrées, et les patrons refermèrent leurs usines. Les messieurs à Gibus et à Non, les ministres de Paris, commencèrent de dire que la situation était révolutionnaire. Elle l'était parce que la blessure était désormais ouverte, parce que cette offense secrète qu'il y a au fond du cœur de tout homme qui gagne mal sa vie et celle des siens avait été réveillée, et parce qu'on avait fait en sorte que les ouvriers de la petite ville ne puissent plus que se méfier les uns des autres et se mépriser. La municipalité démissionna. Le préfet prit la direction du service d'ordre et le renforça. On vécut au milieu des gendarmes. Clémenceau intervint, reçut diverses délégations de la ville. La Chambre des députés nomma une commission chargée d'enquêter et de proposer sa médiation. Le 17 janvier, les 2 syndicats signèrent une sorte de convention. Dans chaque usine, le patron, assisté d'un délégué du syndicat patronal et le représentant choisi par les ouvriers de chaque spécialité, assisté d'un délégué du syndicat ouvrier, devait examiner les tarifs des diverses spécialités et les tarifs fixés, le travail reprendrait. Les débats durèrent 2 semaines. Le dimanche 10 février après-midi, en plein milieu de la ville, des jaunes et des rouges se chamaillaient. Un rouge fut tué d'un coup de revolver. Mais on devait rentrer le lendemain matin à 7 heures et chacun ne pensait plus qu'à cela. Cet ouvrier, qui donna sa vie à la grève quand tout était fini, quand cela ne servait plus de rien, s'appelait Maurice, M-O-R-I-C-E. Je n'ai pas retrouvé son prénom. Le travail reprit après 98 jours. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'était Les Muses s'amusent et nous avons ce soir lu le livre de Jean Guéhenno, Changer la vie, mon enfance et ma jeunesse, disponible chez Grasset dans la collection Les Cahiers Rouges, donc en livre de poche. Vous le trouvez certainement sans doute en occasion dans d'autres éditions, enfin dans d'autres collections que les Cahiers Rouges. Et nous avons donc terminé avec ce texte sur la Grande Grève de 1906. Les Muses s'amusent ont lieu tous les premiers lundis de chaque mois à 21h. Je vous retrouverai donc le mois prochain. S'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Thank you.
de silence débute, jouer au petit soldat inconnu. Tu es venu, je ne t'attendais plus. T'as coupé la corde au pendu, et d'un geste, d'un seul, jeté mon linceul. T'as coupé la corde au pendu, et t'as dit au traître, je t'aime, peut-être. Tu es venu, je ne t'attendais plus.
Sur ton corsage, le vent de la miséricorde, comme un pendu au bout de sa corde, je balançais. Quand il soufflait sur nos voyages, le vent de la désespérance, comme un pendu sur sa potence, je desséchais. Et quand il soufflera l'amour au voile de ton beau navire, afin que nul ne puisse en rire, je te tuerai.
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi? Que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme aux passants qui chantent, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Radio Libertaire 89.4.
Noirs les yeux, blonds les cheveux, par leur père ou leur mère, mi-gauloise, mi-rebeu, autant de sœurs et frères. 4,5 chacune, si on dit que les entiers comptent pour un win et les demi pour moitié. Les jaloux médisants disent qu'elles s'y mettent à deux pour avoir 20 ans dans leur CM2. Cousine de palier et frangine de classe, voisine d'escalier et copine d'en face. Cousine de palier et frangine de classe, voisine d'escalier et copine d'en face.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup fendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup fendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue. Ce gentil sobriquet fut trouvé un matin par Mademoiselle Briquet, maîtresse de CE1. Ça racontait tellement leur façon d'encaisser, sourire désobligeant et conseil avisé.
Jennifer et Samira comme ça,
faut déjeuner le matin.
Jennifer et Samira comme ça,
allez, file te laver les mains.
Jennifer et Samira comme ça,
eh ben ma douce, tu t'es couchée trop tard.
Jennifer et Samira comme ça,
oh, elle est encore dans le coltard.
Jennifer et Samira comme ça,
et les sous d'un centime.
Jennifer et Samira comme ça,
mais tu parles, elle a même pas de crayon de mine.
Jennifer et Samira comme ça.
Eh hey, dis donc, tu fais comme ça chez toi?
Jennifer et Samira comme ça.
Tu manges avec les doigts?
Elles ont laissé causer, mais n'en pensaient pas moins. Elles ont tout avalé, la peau et les pépins. Sauf qu'à 6 ans et demi, elle torchait les petits fers et qu'elle savait aussi faire les courses inter. Sauf qu'à 6 ans et demi, elle torchait les petits frères et qu'elle savait aussi faire les courses inter.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup fendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux pipelettes de la zup fendue.
Jennifer et Samira comme ça,
les deux starlettes à la langue pendue. Maintenant qu'elles ont grandi, c'est devenu des gagneuses, mangeuses de mots hardies, hautement talentueuses, des terreurs de gymnase qui écrasent imparables les petites dribbleuses bourgeoises qui ont peur de la baballe, des tchatcheuses avides qui rigolent à pleines dents, des cacahuètes arachides qu'elles sont seules à comprendre, des dévoreuses de vie qu'assimilent en urgence, qu'ont pas le temps de faire le tri pour l'instant tout fait ventre. Des dévoreuses de vie qu'assimilent en urgence, qu'ont pas le temps de faire le tri pour l'instant tout fait ventre.
Jennifer et Samira comme ça,
les sketchs à Jamel et les fables de La Fontaine.
Jennifer et Samira comme ça,
le son à Fosbury, les chansons de Laurie.
Jennifer et Samira comme ça,
la recette des Alabiya, les gros mots Chaouya.
Jennifer et Samira comme ça,
l'histoire de Jean Moulin, d'Arafat ou d'Isangrin. Leurs frères font des conneries, leurs cousines se marient au bled, elles tiennent l'équilibre sur cette corde raide.
Jennifer et Samira comme ça,
venez nous secouer nos oreillers.
Jennifer et Samira comme ça,
venez nous changer l'air.
Jennifer et Samira comme ça,
venez nous renouveler.
Jennifer et Samira comme ça,
notre vocabulaire.
Jennifer et Samira comme ça, Jennifer et Samira comme ça.
The remix.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit. Dans la nuit. Nuit noire.
La nuit, c'est un sacré tapin qui marche sur la main. La nuit, ça cause avec le vent, ça chante doucement. Oh nuit,
notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit.
Oh nuit,
notre vie est un voyage, notre vie est un voyage, notre vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit.
La nuit,
dans l'hiver et dans la nuit. Dans l'hiver et dans la nuit. Dans l'hiver, dans la nuit.
La nuit et l'hiver.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.
Dans la nuit.